Les personnes qui ont un tempérament expansif font des grands gestes et beaucoup de bruit. Ils en jettent et surprennent par la façon dont ils s'expriment, mais il ne faut pas se laisser impressionner parce que souvent, ce n'est que du spectacle. Les Israélites qui ont subi le châtiment divin semblent avoir compris la leçon car ils sont tout feu, tout flamme quand ils disent « Oui, cherchons à connaître l'Éternel et forçons-nous de le connaître ». Pourtant, Dieu n'est pas convaincu par cet apparent réveil de la foi, alors il leur répond « Comment te traiterai-je, toi, Éphraïm, et toi, Judas, comment te traiterai-je? Votre amour pour moi est semblable aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui se dissipe vite. » Verset 4, chapitre 6. À partir d'ici, commence un premier cycle en deux parties d'accusations et d'annonces de jugement. L'Éternel ne croit pas à la bonne foi de son peuple parce que son cœur n'y est pas et il ne manifeste ni repentance ni humiliation. Ce sont des girouettes dont l'amour pour Dieu est inconstant et superficiel. Ils ne sont pas sincères car ils parlent seulement de revenir à lui quand les temps sont durs et sombres à cause de ses jugements, mais dès qu'apparaissent les premiers rayons du soleil, annonciateurs de jours meilleurs, leur désir de chercher Dieu se dissipe comme la rosée du matin. La répétition « Comment te traiterai-je » exprime la frustration de l'Éternel avec son peuple. C'est comme s'il ne savait plus quoi dire ni que faire. Il est fatigué de proférer des menaces de jugement alors qu'il voudrait au contraire sauver et guérir. Ce n'est pas que les Israélites n'étaient pas religieux, au contraire, mais ils avaient tourné le dos au Dieu unique et vrai pour s'adonner entièrement à l'idolâtrie. Devant cette situation, le châtiment que Dieu a déjà annoncé devra aller jusqu'à son aboutissement final, c'est-à-dire la disparition de la nation d'Israël Nord et l'exil de ses habitants. Je continue le texte. « C'est pourquoi je vous ai frappé par les prophètes, je vous ai massacré par mes paroles et le jugement a fondu sur vous comme l'éclair. » Verset 5. Quand les prophètes annonçaient des oracles de jugement de la part de l'Éternel, ils ne prenaient pas de gants et leurs paroles étaient comme des coups de massue afin d'essayer de sortir les Israélites de leur léthargie spirituelle. Par exemple, quand Dieu a donné son ordre de mission à Jérémie, il lui a dit « Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Cela faisait maintenant environ 2 siècles qu'Israël Nord existait, et dès le début, le peuple avait suivi l'exemple de ces rois impies qui adoraient les faux dieux. Et avec le temps, les pratiques étaient devenues de plus en plus sordides, ce qui fait que l'Éternel avait puni Israël de diverses manières et à plus d'une occasion. Je lis un passage du prophète Amos. « Moi, je vous ai laissé le ventre vide dans toutes vos cités, j'ai fait manquer de pain dans toutes vos bourgades. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et moi encore, je vous ai refusé la pluie 3 mois avant le moment des moissons, ou bien j'ai fait pleuvoir sur telle ville et non pas sur telle autre. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et je vous ai frappé par la rouille et la nielle, et puis j'ai desséché vos jardins et vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les criquets. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. Et j'ai déchaîné contre vous la peste comme je l'avais fait contre l'Égypte. J'ai tué par l'épée vos jeunes gens tandis que vos chevaux ont été capturés. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. J'ai produit parmi vous des bouleversements comme j'en ai produit à Sodome et Gomorre. Et vous avez été comme un tison sauvé du feu. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenu jusqu'à moi, l'Éternel le déclare. » Fin de citation. Malgré ces châtiments sévères, le peuple persévérait dans les pratiques les plus ignobles de la religion cananéenne. Je continue le texte. car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Verset 6. L'amour est mis en parallèle avec le sacrifice parce que aimer est un don de soi et donc un véritable sacrifice. Sans l'amour du prochain, les rites extérieurs sont des offrandes de façade qui n'ont aucune valeur pour Dieu parce qu'ils dégagent une odeur nauséabonde. Osée fait ici écho à plusieurs autres prophètes. Par exemple, Amos écrit « Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant. » Fin de citation. Amos dénonce les comportements extérieurs de ses contemporains. Il s'élève contre l'injustice sociale et réclame l'égalité de droit et la protection de la veuve et de l'orphelin contre les requins, ces prédateurs de tout poil. Osée tient à peu près le même discours que son prédécesseur Amos, mais il touche aussi du doigt leur cœur méchant et donc leur manque d'amour. Il les exhorte à se conduire avec bienveillance comme des frères les uns envers les autres. En second lieu, Osée, parlant au nom de l'Éternel, rappelle qu'il désire que son peuple le connaisse, c'est-à-dire qu'il lui soit dévoué et loyal, ce qui dans les faits se traduit par le respect et la mise en pratique de l'alliance de la loi conclue sur le mont Sinaï. En effet, et comme je l'ai dit, à moins que les sacrifices ne soient offerts dans un contexte d'obéissance et de soumission à Dieu, ils sont vains et même une insulte à son égard. Les gens religieux, qui sont accrochés aux rites et peu importe lesquels, se comportent un peu comme le charmeur de serpents qui, par le son monotone de sa flûte, calme l'agressivité d'un cobra. Ils s'imaginent qu'en faisant quelques tours de passe-passe, une bonne action ici, une récitation ou un certain geste par là, ils vont satisfaire Dieu. Mais c'est se moquer de lui. Je continue le texte. Mais vous, tout comme Adam, vous avez transgressé l'alliance. Là, vous m'avez trahi. Verset 7. Le mot Adam porte à confusion parce qu'en hébreu, il signifie aussi homme. Par ailleurs, Adam était aussi le nom d'une ville située à proximité du Jourdain et peut-être l'endroit où le premier homme s'est installé après avoir été chassé du Jardin d'Éden. Cela dit, comme Osée établit une comparaison entre deux ruptures d'alliance, c'est au premier homme créé par Dieu qu'il pense. Ici, Adam est donc un nom propre. Après avoir délibérément choisi de transgresser le commandement divin lui interdisant de manger le fruit défendu, Adam et Ève furent condamnés par l'Éternel. Puis, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Le nom d'Adam apparaît dans les généalogies et les démonstrations théologiques de l'apôtre Paul, mais curieusement, dans l'ensemble des Écritures, il n'y a que deux auteurs sacrés qui pointent un doigt accusateur dans sa direction. Le prophète Osée et avant lui Job, qui, se défendant contre les reproches injustifiés que lui faisaient ses faux amis, dit « Ai-je caché mes péchés comme Adam, afin d'enfouir mes fautes en moi-même ?» Voilà bien un pitoyable commentaire sur le premier homme. Je continue le texte. Galaad est une cité de malfaiteurs maculés de traces de sang. Verset 8. Galaad était le nom d'une partie de la Transjordanie, la région située à l'est du Jourdain. On y produisait un baume fort apprécié, utilisé à des fins médicinales. Mais il y avait aussi une ville située dans les contreforts du massif montagneux qui s'appelait Galaad Ramoth. Elle était devenue un repère de voleurs qui détroussaient les voyageurs après les avoir tués. Comme Galaad était décentrée par rapport au pays d'Israël proprement dit, cette région était propice aux mauvais garçons. Un certain Pekah y avait établi son fief avant de jurer fidélité à Menahem, roi d'Israël. Mais après la mort de ce dernier, il assassina son fils Pekahia et devint roi d'Israël Nord. Je continue le texte. Comme une bande de brigands postés en embuscade, la confrérie des prêtres s'en va assassiner les passants sur la route qui mène vers Sichem. Leur conduite est infâme. Verset 9. Sichem et la ville de Galaad-Ramoth, mentionnée dans le verset précédent, avaient été choisies par Josué pour être deux des six villes-refuges où toute personne qui avait commis un homicide involontaire pouvait se réfugier et échapper aux vengeurs de sang en attendant que le forfait qu'il avait commis passe en jugement. Ces cités-refuges permettaient au droit et à la justice de prévaloir sur les vendettas familiales ou entre tribus qui souvent traînent de génération en génération. Mais, par une ironie du sort, Galaad, Ramoth et Sichem étaient devenus des villes de refuge pour assassins. Sichem se trouvait au centre du pays, dans la tribu d'Éphraïm, à 50 km au nord de Jérusalem et à 9 km au sud-est de Samarie, l'ancienne capitale d'Israël Nord. Sichem était traversé par la route que les caravanes empruntaient dans le sens nord-sud. Quand les Israélites du Nord se rendaient à Bethel, qui est proche de la frontière avec Juda, pour y célébrer les fêtes en l'honneur du veau d'or, ils empruntaient cette route. Mais comme dans les environs de Sichem, elle était encaissée entre deux montagnes, c'était devenu un véritable coupe-jarret. Or, les prêtres, qui déjà se remplissaient bien les poches grâce aux sacrifices offerts aux idoles, s'était transformé en une confrérie de bandits de grand chemin qui faisait la peau aux touristes de passage avant de les détrousser. Il n'est donc pas étonnant que le prophète Osée dise « Leur conduite est infâme ». Je continue. « J'ai vu d'horribles choses en Israël, car la prostitution d'Éphraïm s'y étale et Israël s'en est souillé. » Verset 10. En hébreu, un dérivé du mot pour « horrible » décrit des figues pourries. Les Israélites du Nord étaient complètement dégénérés, tant du point de vue moral, social que religieux. Leur infidélité à l'Éternel et les transgressions à la loi de Moïse avaient atteint des sommets, ou plutôt les profondeurs d'un puits sans fond. L'idolâtrie rampante, la prostitution sacrée et ordinaire, les meurtres et le vol étaient monnaie courante en Israël, ce qui explique pourquoi la nation était mûre pour le jugement. Je finis le chapitre 6. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Verset 11. Plusieurs fois dans les Écritures, la moisson représente un jugement. Bien que Osée s'adresse au royaume des 10 tribus, de temps en temps, il prophétise aussi sur Juda. Si Israël Nord va recevoir le châtiment qu'il mérite, son voisin du Sud n'y échappera pas non plus, ce que Osée précise plus loin. Il a déjà critiqué le comportement des princes de Juda parce qu'ils ont profité de l'invasion du royaume des 10 tribus par les Assyriens pour rogner une partie de son territoire. Cependant, dans la même vision où il entrevoit le châtiment de Juda, Osée distingue aussi le jour où l'Éternel relèvera son peuple et le ramènera de l'exil. Si Osée ne marque pas de transition entre les deux scènes futures qu'il décrit, c'est parce que dans les visions prophétiques, le temps se télescope et les événements se succèdent sans que les années ou même les siècles soient pris en compte. Nous arrivons au chapitre 7 où le prophète reproche à Israël Nord l'anarchie politique, les alliances avec les nations païennes et surtout et toujours l'abandon de l'Éternel. Je commence à le lire. Au moment même où j'ai voulu changer le sort de mon peuple Israël et le guérir, les péchés d'Éphraïm et les actes mauvais commis par Samarie ont été révélés. Car ils ont pratiqué la tromperie. Le voleur s'introduit jusque dans les maisons et dans les rues. Des bandes de brigands dépouillent les passants. Verset 1. Samarie, la capitale du royaume, et Éphraïm sont tous deux des synonymes pour Israël Nord. Quand l'Éternel cherche à alléger le poids du châtiment qu'il fait peser sur son peuple et son pays, voilà que de nouveaux scandales éclatent. De nouvelles horreurs font surface. La plaie morale et spirituelle du peuple est mise à nu et apparaît dans toute sa laideur. Pendant longtemps, les Israélites se cachaient encore pour commettre les péchés associés à l'idolâtrie, mais maintenant, ils agissent en plein jour et sans honte, parce que leur conscience est cautérisée. L'histoire a tendance à se répéter parce que la nature humaine ne change pas. Durant la première moitié du XXe siècle, certaines pratiques, surtout d'ordre sexuel, se faisaient en secret, puis, dans les années 60, a eu lieu une sorte de révolution des mœurs, et depuis, on étale tout devant tout le monde. Le pire est que ceux qui sortent leur dépravation du placard et les étalent sur la place publique sont qualifiés d'honnêtes et courageux. Avant, les gens avaient honte de leurs péchés, mais maintenant, ils s'en vantent. Je continue le texte. Ils ne se disent pas que moi je tiens des comptes de tout le mal qu'ils font. Maintenant, leurs méfaits de partout les enserrent, et je les garde présents à l'esprit. Verset 2. Les Israélites ne tiennent aucun compte du caractère moral de l'Éternel et s'imaginent qu'ils échapperont au châtiment. Mais Dieu prend note de toutes leurs mauvaises actions qui représentent autant de témoins à charge qui les accusent. C'est ainsi qu'ils seront enserrés par leur péché. Cette image évoque le siège de Samarie que les Assyriens ont enfermé dans leur étau. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de Samarie. C'est un certain Omri qui, devenu roi d'Israël Nord, acheta une colline sur laquelle il construisit sa capitale qu'il nomma Samarie. C'était un homme idolâtre, mais il avait bon goût, car il a su choisir l'endroit idéal pour s'établir. Du sommet de cette colline, on voit à perte de vue, à l'ouest, la mer Méditerranée, à l'est, la vallée du Jourdain, au nord, le mont Hermon, et au sud, Jérusalem. Le prophète Osée va maintenant décrire un complot, car c'était souvent de cette façon qu'Israël Nord changeait de roi. Je continue le texte. Par leur méchanceté, ils amusent le roi et par leur tromperie, les princes. Verset 3. Il s'agit d'une scène du palais où les conjurés endorment la vigilance du roi et des princes en les caressant dans le sens du poil avec des belles paroles flatteuses. Je continue. Tous, ils sont adultères, brûlants comme le four du boulanger qu'il n'a nul besoin d'attiser depuis qu'il a pétri la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement levée. Verset 4. Les conjurés sont des adultères, mais au niveau politique, c'est-à-dire infidèles, déloyaux et trompeurs vis-à-vis de leur souverain. Le four allumé en veilleuse est le complot qui se trame. Le boulanger est un prétendant au trône, ambitieux, impétueux et prêt à jouer du poignard. Une fois le coup préparé, il laisse mûrir les choses et dès que les circonstances sont favorables, il passera à l'action. Je continue. Au jour où on fête leur roi, les princes se rendent malades, échauffés par le vin, et le roi tend la main à ses moqueurs. Verset 5. Osée décrit les orgies qui accompagnaient les festivités marquant l'anniversaire de l'accession du roi au trône, ou une partouze quelconque. C'est le jour idéal pour mettre à exécution le complot. Les conjurés sont assis à la même table que les grands du royaume. Ils plaisantent et parviennent à enivrer le roi qui, ne se doutant de rien, tend le verre de l'amitié au traître. Je continue. Il s'approche de lui, le cœur embrasé comme un four, brûlant pour leur complot. Toute la nuit, leur fureur sommeillait. Mais au matin, elle s'embrase comme une flamme ardente. Verset 6. Pendant la nuit d'orgie, les conjurés ont dissimulé leurs sentiments hostiles et tenu secrètes leurs intrigues. Le boulanger, c'est-à-dire le chef et futur roi, se tenait à l'écart. Puis le matin, et profitant de l'effet de surprise, il apparut pareil à une flamme ardente et il donne le signal de l'exécution du roi. Je continue. Tous, ils sont échauffés, tout comme un four, ils consument leur chef, et tous leurs rois sont renversés sans qu'aucun parmi eux ne fasse appel à moi. Verset 7. Le roi tombe avec les principaux chefs du royaume. En 30 ans, entre la fin du règne de Jéroboam II et la fin du royaume du Nord, 6 rois se sont succédés, dont 4 furent assassinés par leurs successeurs. Après Jéroboam II, son fils Zacharie monte sur le trône. À peine est-il assis qu'il est tué par Shalum, qui est éliminé tout aussi rapidement par Menahem, qui règne 10 ans. Il est succédé par son fils Pekahia, qui se maintient pendant 2 ans avant d'être trucidé par Péka, qui après une 10aine d'années comme roi, est assassiné par Osée, le dernier souverain d'Israël Nord, qui finira déporté en Assyrie. Malgré cette anarchie ambiante, aucun de ces rois n'a invoqué l'Éternel, ce qui montre à quel bas niveau ils étaient tombés.